Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là, d'avoir choisi RMC une fois de plus. C'est Génération After avec Sofiane Zouaoui du Winamax FC, avec Elton Mokolo, avec Jimmy Brown. On est en direct jusqu'à 22h, on s'intéresse à l'Euro bien évidemment. Les quarts de finale demain dans une dizaine de minutes. Allemagne-Espagne. Quelle journée demain.
D'ailleurs, c'est Espagne-Allemagne, si j'ai envie d'être chiant.
Ah ouais.
Tout à fait.
Ouais, t'es chiant là pour le
c'est
coup.
C'est bien relou pour le coup.
Ouais, je suis
t'es chiant,
je suis
relou. C'est le pays organisateur en fait.
Ouais. Bah, je respecte pas le pays organisateur, c'est ça ton truc.
Ah oui, ah oui, oui.
C'est extrêmement relou et c'est ce que me disait à l'instant Kylian Mbappé par SMS. On parlera de l'OM également tout à l'heure avec un avis de Sofiane justement concernant Aubameyang et puis 21h le quiz de l'after. Si vous voulez tenter de remporter un bomber shot, vous envoyez quiz par SMS tout de suite au 732-16. On est toujours en direct sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être là les gars. Et juste avant de continuer sur Mbappé, de l'entendre parler d'Antoine Griezmann, et vous pouvez réagir au 32-16, un point sur le direct. Et le direct, c'est Wimbledon avec le deuxième tour qui continue sous les yeux d'Eric Salio. Salut Eric.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut Eric.
Salut Eric.
Salut Eric.
Ouais.
C'est la fête des Français, Eric, c'est la folie, c'est cocorico.
Oui, puisqu'on a désormais, c'est officiel, ce sera le chiffre définitif, on aura 6 Français au troisième
mais
tour.
Non.
Mais oui. Alors c'est pas un record, hein, je vous arrête tout de suite, on va arrêter de s'emballer, puisqu'en 2010, ils étaient 7, mais la journée était fabuleuse avec la qualification d'Arthur Fils qui a battu Urkacz, avec l'abandon du Polonais qui s'est blessé au genou quelques points avant la fin de ce match. Lucas Pouille qui a bénéficié lui aussi de l'abandon de Kokkinakis, touché au genou. Quentin Alice qui a sorti une grosse perf face à Kachanov, victoire en 5 de Quentin Alice. Et puis il y a quelques minutes, Giovanni Mpeci Pericard, notre Karlovic, notre Wissner, tout ce que vous voulez, qui vient de coller 6-4, 6-1, 6-2 en 1h10 je crois, à Nishioka. 27 aces seulement. Bon, c'est rien par rapport aux 51 aces du premier tour, mais le garçon a un potentiel inouï, et j'attends de connaître son adversaire puisque le match est en cours. Ce sera le gagnant du match entre Tsitsipas et Ruusuvuori. Pour l'instant, il y a 2-7 à 1, je crois, pour Ruusuvuori. Mais voilà, c'est la fête. On se régale. Wow. 2-7-0 pour Ruusuvuori, 7-6, 7-6, mais il y a 5-3 Tsitsipas. C'est un match qui peut s'éterniser. Donc, c'est l'info du jour. 6 Français au troisième tour de ce Wimbledon 2024.
Énorme.
Faudrait créer un grand chelem en France un jour.
Ça marcherait jamais.
Ouais, ça marcherait pas.
Ou alors, le problème, c'est que mettre une autre surface que le gazon, je crois.
Ouais, bah exactement. J'en ai parlé avec Lucas Pouille, c'est que le problème, c'est que tous nos meilleurs joueurs français ont été élevés en salle, en indoor.
Et voilà.
Donc, voilà le résultat. On peut pas briller sur terre si t'as été élevé sur surface rapide. La mauvaise nouvelle quand même, j'en parle, c'est l'élimination de Caroline Garcia, battue en 3-7 par l'américaine Bernarda Pera, donc il n'y a plus de Française dans le tableau féminin.
Merci beaucoup Eric. On est rendu à s'exulter sur le nombre de Français qualifiés au troisième tour dans les grands chelems maintenant.
Il est
magnifique le niveau de tennis français.
T'as tout à fait compris Corleone.
Exactement, c'est bien ça.
Corleone sur le chat YouTube.
Un chat chat très offensif.
Ouais, ils sont pas aimés pour Mbappé.
Ouais, ils ont pas aimé pour Mbappé, ils ont raison de donner leur avis.
Un petit peu raison quand même. C'est bien d'avoir 6 Français au troisième tour, mais un seul en demi, ce serait bien déjà. Kylian Mbappé, donc on conclut sur l'équipe de France à la veille de ce France-Portugal. Il était en conférence de presse. A-t-il eu une attitude de capitaine? On vous attend au 32-16 pour en débattre et je voudrais qu'on écoute sa réponse concernant Antoine Griezmann. Il a été interrogé sur le coup de moins bien supposé d'Antoine Griezmann, capitaine Mbappé à la défense.
Antoine, c'est vrai qu'il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c'est un peu difficile. Je trouve ça un peu injuste. Surtout que les critiques elles venaient majoritairement du pays. C'est un joueur qui a beaucoup donné pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir de la reconnaissance. Il est dans un moment un peu plus dur. Ça, c'est une vérité de le dire et c'est pas une honte de le dire, mais je pense qu'il devrait avoir le soutien de tout le monde. Il a le soutien de tout le groupe. Ce serait bien qu'il ait le soutien de vous, les journalistes, des gens, parce qu'il a fait beaucoup pour la sélection et je pense que c'est important d'avoir la reconnaissance des joueurs qui ont qui ont porté ce maillot, qui ont fait les grandes heures de notre pays, et il en a fait partie. C'est dommage qu'il ait un petit coup de moins bien et que on le jette dans la rue et qu'on le gratine. C'est quelqu'un qui aime être soutenu, qui aime être aimé. Vous voyez sur son visage quand il est soutenu, il donne le meilleur de lui-même. Donc aidez-le et essayez de faire tout pour qu'il nous aide, parce que c'est un joueur important pour nous.
Kylian Mbappé au micro d'Arthur Perrault.
Une remarque. Quand il dit des choses positives sur lui, il parle au passé. Oui. Et quand il le fracasse, il parle au présent.
Exactement.
C'est fabuleux.
Exactement.
C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il parle, on dirait qu'il est en train de faire son jubilé, Antoine Griezmann. Ouais, ça a été quand même un joueur pas mal, etc. Bon, en ce moment, par contre, c'est vrai. Hein, ouais. Il est dans le dur.
Il le répète bien. Il dit. C'est vrai, vous avez raison, il est totalement éclaté.
Ouais.
Est-ce que j'ai dit qu'il était éclaté? Ouais, je vous ai raison, il est éclaté.
Mais
en ce moment,
franchement, mettez-lui une petite tape sur l'épaule, Antoine. Bah, et puis.
Un gros problème.
Un son d'une minute. Là, il le défend. Genre. Qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Il défend Antoine Griezmann il y a 5-10 ans.
Il y a autant un problème de fond et de forme. Déjà sur le fond, mais il n'a jamais été question de débattre du CV d'Antoine Griezmann. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur le plateau qui va te dire que Antoine Griezmann n'est pas un joueur majeur de l'histoire, et je dis bien de l'histoire de l'équipe de France. Ça, il n'en est pas question. On parle des performances. Deuxième point qui me dérange, déjà la couverture d'une équipe nationale, elle n'est pas internationale, elle est davantage nationale. Je ne suis pas sûr que l'actualité de l'équipe de France intéresse par exemple la Suisse. Quand bien même il peut y avoir des journalistes qui sont au courant de ça.
C'est-à-dire
dans le groupe, il attend surtout qu'au pays on soit derrière, ouais, etc.
En gros, il explique que cette culture-là,
on doit être supporter.
En gros, il explique que les critiques, en gros, si elles sont internationales, pas de souci. Mais par contre, si c'est national, là, c'est un vrai problème. Et ensuite, dernier point, c'est quelque chose qui me déroge profondément, c'est qu'en gros, par rapport à l'histoire du pays de foot. Mais Kylian Mbappé, t'as vu la différence entre les joueurs anglais et la presse anglaise? T'as vu le cas Cristiano Ronaldo qu'on a évoqué hier via la presse nationale? T'as vu ce qui s'est passé avec l'Espagne par rapport à Pedri? Enfin, j'ai envie de dire, il y a des problèmes internes partout. Est-ce que l'Espagne est un pays illégitime par rapport au foot parce que les performances de Pedri sont remises en question? Est-ce que l'Angleterre n'est plus un pays de foot parce que en gros, il tabasse tous les joueurs anglais? Est-ce que le Portugal n'est plus un pays de foot parce que Cristiano Ronaldo est remis en question?
Pardon, je t'interromps, mais à la limite, ça c'est secondaire ce qu'il dit sur Griezmann, son coéquipier, qui est peut-être le joueur le plus important de l'équipe de France sur les 10 dernières années.
Non mais c'est maladroit. Mais le fond de truc, c'est qu'il veut, l'aider, il veut lui venir en aide. C'est pour ça, il en fait trop. C'est ce que tu dis, Elton, sur l'histoire du pays de foot. Tout ça, évidemment, il en fait beaucoup trop. Mais c'est sa manière à lui d'essayer.
Elle est maladroite. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un discours qu'un capitaine peut tenir à la veille d'un match important.
Dans le fond du truc, c'est maladroit sur la forme, mais le fond du truc, c'est qu'il est là en tant que capitaine et voilà, il veut sortir
des joueurs. Tu protèges ton équipe pour toi-même. Tu dis Antoine, il est extraordinaire, Antoine va vous montrer demain qu'il va faire un match d'honneur.
Non, dire ça. Tu dis n'importe quoi. On voit tous son euro.
Tu dois, t'es capitaine, tu défends avant tout. Le premier objectif pour moi d'un capitaine, c'est de défendre son groupe.
Mais là, c'est ce qu'il fait. Tu défends Griezmann.
Non, mais regarde, tu peux le défendre en disant, écoutez, moi, il est très important, Antoine Griezmann. Il fait beaucoup d'efforts sur le terrain que vous ne voyez pas, et donc vous avez l'impression qu'il est un peu plus en difficulté. Je pense que toute l'équipe peut faire mieux ensemble. Même moi, j'ai pas été très bon sur le dernier match, mais j'ai de grande confiance en Antoine Griezmann. Il fait... Voilà, tu vois,
tu devrais faire du media training, toi.
Non, mais on peut contourner parce que là, la façon dont il le dit, moi, j'ai un sentiment de gêne, et j'ai aussi un sentiment de gêne au final par rapport à qui parle, parce qu'il y a un problème de légitimité, non pas sportive, parce que c'est quand même un grand joueur d'équipe de France, mais il y a un problème de hiérarchie.
Bah oui.
Tu vois, c'est comme si un nouveau. Parce qu'il est encore nouveau, on va dire hiérarchiquement par rapport à Griezmann.
Même s'il n'est pas nouveau par rapport à Griezmann,
Griezmann, c'est la représentation de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et c'est comme s'il y avait un petit, évidemment, qui a de grandes qualités et qui a toute sa place dans le présent et le futur de l'équipe de France, qui venait en conférence de presse et qui lui tapait comme ça sur l'épaule et Antoine, et toi nous, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est vrai que t'es dégueulasse en ce moment. D'ailleurs, je le dis aux journalistes, c'est dégueulasse. Mais t'inquiète, parce que t'étais une légende de l'équipe. Tu vois, en plus au passé. Il y a un problème dans la forme et moi ça me dérange.
Et juste dans tout ce qu'on dit là, pardon, il est aucunement en question de remettre en cause le joueur, le talent de Kylian Mbappé, etc. C'est un footballeur exceptionnel, Kylian Mbappé. Mais quand t'es capitaine, quand tu prends la parole comme ça. Je veux dire, moi, si je suis Antoine Griezmann, je sais pas comment tu
parles de moi. Lui.
À la limite, il aurait pu dire pour le défendre. N'oubliez pas qu'il a joué à droite.
contre la Belgique. Exactement. Il s'est sacrifié pour les autres. Voilà. Il ne dit même
oui,
pas ça.
Non, mais parce qu'il est, il est parti dans une explication un peu maladroite. Mais le fond du truc, c'est que.
C'est souvent le cas en ce moment.
Oui, mais maladresse, plus maladresse sur les milieux de terrain qui ne peuvent pas lui mettre un ballon en profondeur. Mais maladresse sur Antoine Griezmann. Ça
moi, ce qui me fait rire juste, Thibaut, parce que dans le chat, il répondait à une question arrêtée. C'est bien de réagir aussi par rapport à ce que le chat dit. Faut pas sous-estimer l'ego des mecs dans le vestiaire.
Bien sûr.
Griezmann, même si c'est un mec gentil et qui protège très souvent son groupe, c'est un mec avec un énorme ego. Et c'est normal parce qu'il a fait cette carrière aussi grâce à ça. Je vous le dis, dans l'équilibre d'un vestiaire, si j'ai un petit qui parle comme ça de moi, alors que je suis la représentation de l'équipe de France de Didier Deschamps, j'aimerais lui dire, hey gros, c'est bien gentil ta défense, mais ta défense, elle est un peu gênante, quoi. Oui. Et je suis à sa place, je le ressens comme ça.
Griezmann qui était pressenti, si ça n'avait pas été Kylian Mbappé, le capitaine, tu imagines une seconde Griezmann venir, parce que Mbappé aussi est en difficulté depuis le début de l'Euro. Au moins autant que Antoine Griezmann.
En plus.
Tu imagines Griezmann dire bon là vous allumez un peu trop, il a été bon ces dernières années Kylian. Bon là c'est vrai,
exactement,
il est
pourri
en ce moment. Tu imagines Griezmann, le tollé que ça aurait créé si Griezmann avait dit ça.
On a eu justement le cas à l'occasion du premier rassemblement de l'équipe de France où Griezmann il a quand même dit ouais mais Mbappé il a mis une quarantaine de buts.
Mais oui, il défend toujours le groupe.
Manière de entre guillemets de fermer le débat. Et à l'époque déjà on n'était pas forcément d'accord avec Antoine Griezmann, mais ça s'entendait. Là du côté de Kylian Mbappé par rapport à Antoine Griezmann, il y a surtout cette idée de dire ouais Antoine Griezmann c'est pas bien, il est on devrait le soutenir, alors qu'il n'est pas question de ça puisque j'insiste sur un point, la sanction sur le troisième match, elle émane de Didier Deschamps quand il le met sur le banc, pas nécessairement de la presse.
Il y a Mathieu qui est avec nous au 32-16. Salut Mathieu.
Salut
Mathieu.
Sois le bienvenu dans
salut
Génération After. Est-ce que Mbappé a une attitude de capitaine aujourd'hui ou pas?
Bah alors déjà juste avant, une toute petite dédicace à Sofiane Elton parce que je suis un grand écouteur du WSC, je suis un Winami.
Merci.
Du coup voilà.
Un Winami.
Déjà
c'est
les
bon,
gars, moi par rapport à votre question, en fait c'est tout simple. Mbappé, il a absolument pas eu une attitude de capitaine. Comme l'a dit Elton juste avant, Griezmann l'a défendu au premier rassemblement. Deschamps passe son temps à le défendre, tout le monde passe son temps à le défendre. Et je pense que Mbappé, au lieu de parler comme il a parlé, il devrait parfois juste en fait se dire que le problème il vient aussi peut-être un peu de lui, parce que moi je pense que Kylian depuis un an et depuis sa préparation manquée au PSG et voilà, il a un problème physique, il a plus cette explosivité qu'il avait avant.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs hein, aujourd'hui en conférence de presse, on l'a pas écouté, mais c'est ce qu'il a dit qu'il
il en a parlé mais il a réellement, voilà, je trouve qu'il a plus cette explosivité, il a plus cette jeunesse, cette fougue qu'il avait quand en 2018 par exemple. Et aujourd'hui, avant de parler des autres et avant d'exploser son groupe, parce que clairement aujourd'hui je trouve qu'il a été dur quand il parle de Pogba et qu'il dit que les autres ne peuvent pas prendre la profondeur, ça je trouve ça vraiment déplacé en fait, surtout à la veille d'un quart de finale. Je trouve ça déplacé la façon dont il parle d'Antoine Griezmann, alors qu'Antoine Griezmann l'a défendu il y a même pas deux mois. À un moment donné en fait, t'es censé aujourd'hui souder ton groupe en tant que capitaine, t'es censé mener ton groupe à la victoire, et aujourd'hui il n'a pas eu une attitude de capitaine. Et pour moi, Griezmann est beaucoup plus légitime, rien que dans ses mots et rien que dans cette conférence de presse, il prouve que Griezmann est plus légitime que lui pour être capitaine.
Largement.
Aujourd'hui,
je te rejoins.
Mais bien sûr.
Et pour toi, c'est de la maladresse ou c'est plus profond que ça?
C'est de la maladresse, mais je pense que c'est vraiment de la guerre d'ego. Je pense qu'aujourd'hui il voit, parce qu'on dit que les joueurs sont enfermés dans leur bulle, surtout avec Deschamps et tout ça. Mais je pense qu'il voit les critiques qu'il y a sur lui, et je pense qu'il essaye aussi un peu de les déplacer. Je pense clairement que c'est de la maladresse, mais Kylian, on le connaît en conférence de presse, il est quand même rarement maladroit. Il sait quand même ce qu'il dit, il pèse ses mots, et je pense qu'il essaye un petit peu de déplacer le problème et de dire ben regardez, le problème c'est pas moi, le problème c'est que les autres autour ils sont moins bien, le problème c'est que les autres autour ils prennent moins la profondeur et que moi du coup je peux moins aller faire ce que je faisais avant. Mais c'est pas vrai. À un moment donné il faut qu'ils se remettent en question et il faut qu'ils disent ok, peut-être que moi je manque d'explosivité, mon groupe autour c'est à moi de les mener à la victoire, et ils doivent jamais les exploser comme ça, parce que là ça va créer un vrai problème dans le vestiaire. Et si demain on se fait éliminer en quart de finale, je peux vous assurer que tout le monde va revenir là-dessus en disant que Mbappé a noyé son groupe à un jour du match.
On en revient au problème originel qui est de savoir: est-ce qu'un joueur qui a construit sa carrière de grande qualité, il faut le répéter, de grande qualité pour le moment sportivement, construit autour de sa personne, est-ce qu'il est capable tout d'un coup de parler pour les autres. Moi, j'ai un énorme doute par rapport à ça.
Ça, c'est un challenge pour beaucoup de joueurs.
Ouais, mais à ce point-là, là, on est vraiment dans une forme de caricature. Et juste aussi, c'est que c'est aussi pour son bien. Car moi, je pense que ce statut, tout cet empilement de statuts, tout cet empilement de prix qu'on lui décerne, qui sont parfois logiques, mais qui sont parfois abusés, je pense que c'est trop pour un joueur, et qu'à certains moments de sa carrière, je pense qu'il a besoin de se libérer un petit peu de cette charge.
Le match
et
est
je
demain.
Je crois que c'est le moment en ce moment.
Avec Mbappé capitaine, France-Portugal à 21h. D'ailleurs, événement sur
RMC. Demain, il mettra tout le monde.
Voilà, on sera heureux. Ça n'a aucun rapport avec le débat d'aujourd'hui.
Triplé. Voilà, on sera demain. Et d'ailleurs, RMC sera sur Rennes, là où tout a commencé pour N'Golo Kanté. On continue la tournée des clubs formateurs de nos joueurs français. Dès 18h pour vivre ensemble Espagne-Allemagne. Ça va, Sofiane?
Uh-huh.
En direct sur écran géant, et ensuite le match et l'after dans la foulée. Si vous voulez venir, vous faites un mail à public@rmc.fr. Demain, en direct de Suresnes. Du foot, une équipe de France qui joue en direct, ça vient de partir. C'est l'équipe de France de Thierry Henry. L'équipe de France olympique débute sa préparation par un match amical face au Paraguay. Ça se passe à Bayonne. Et c'est Paul Lafitte qui est sur place. Salut Paul.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
C'est parti.
Eh oui, c'est parti, il y a pile poil 45 secondes ici dans un stade quasiment à guichet fermé. Thibaut, évidemment, pour cette première rencontre pour les hommes de Thierry Henry, tu le précisais, qui a tenu hier une conférence de presse et qui a fait deux annonces. La première, c'est qu'Alexandre Lacazette sera le capitaine de cette équipe de France durant le tournoi olympique. Et la deuxième, c'est le départ hier après-midi, la mort dans l'âme de Khéphren Thuram, hein, qui va signer à la Juventus de Turin. Et la Juventus de Turin n'a pas voulu que son futur joueur donc dispute cette compétition. Donc il a quitté les Bleus hier après-midi. Eh bien, c'était un déchirement pour le joueur Khéphren Thuram. Lacazette donc sera titulaire ce soir, évidemment. Et puis deux trois petites infos quand même, il y aura quatre joueurs qui seront en tribune, hein, on le sait, Thibaut, durant cette compétition olympique. Le gardien remplaçant Théo Depersin, les trois autres sont titulaires ce soir. Il s'agit de Andy Diouf, il s'agit également de Krislin Matsima ou encore de Leslie Hugo Chukwu. Donc ces trois joueurs sont titulaires pour ce match contre le Paraguay. Coup d'envoi donné donc à Bayonne il y a un petit peu plus d'une minute 30.
Merci beaucoup Paul. C'est vrai que c'est étonnant de mettre titulaire 3 mai que tu prends pas quand même.
Alors voilà. Que là, il y a
la liste va être encore amenée à bouger, ouais, que finalement ils vont
sait jamais. Hein.
Ouais. Là, on est au bout de deux minutes, mais il y a Olise qui vient de sortir parce que Chelsea vient de l'acheter.
plutôt Bayern.
Ouais,
ouais, c'est le risque, effectivement. 21h17, petite pause.
C'est les JO.
On est de retour dans Génération After avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown pour l'avis d'Elton sur Espagne, Allemagne, l'autre quart de finale demain. Elton attend beaucoup de la nouvelle génération espagnole. C'est tout de suite et c'est sur RMC.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 21h21, Génération After avec Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo, Jimmy Brown. À suivre 21h45, le quiz de l'After. Vous envoyez quiz par SMS au 732-16 pour vous inscrire, participer et tenter de remporter un Bombers Shot. On parle de l'OM dans quelques minutes avec l'avis de Sofiane concernant Aubameyang. Mais d'abord, et tiens, et juste avant Elton, ton avis tranché, il y a déjà eu un but. Ce début de prépa se passe bien pour l'équipe de France Olympique, Paul Lafitte.
Ouais, Thibaut, magnifique. Après trois petites minutes de jouer, c'est un but de Juan Salcedo qui permet donc au Paraguay de mener 1-0. Attention, c'est une occasion pour l'équipe de France dans la surface de réparation, mais c'est un ballon perdu par Luqueba aux 30 mètres qui a donc permis, eh bien, ce rush un petit peu en solo de Salcedo qui a fixé et qui a trouvé donc le petit filet. 1-0 donc pour le Paraguay. On joue depuis 7 petites minutes ici à Bayonne en première mi-temps.
Ça se trouve, Olise, c'est lui qui va partir de lui-même, hein, au bout d'un moment.
Oui.
Voilà. Non, j'ai reçu un texto, faut que j'y aille, monsieur.
Oui. Le gardien s'est taillé d'ailleurs sur le but Paraguay.
Ouais, il a commencé. Espagne-Allemagne, demain à 18h, en direct sur RMC, le premier quart de finale. Jingle Elton.
Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations. J'ai parlé de quoi, okay. Je me souviens même plus.
Ouais, mais apparemment, t'étais là.
De nuit, a priori.
Ça, c'est fortement probable.
T'attends beaucoup de ce match et notamment et surtout de la nouvelle génération espagnole.
Et pour moi, Thibaut, demain du côté de Stuttgart, c'est beaucoup plus qu'un quart de finale qui va jouer pour la nouvelle génération espagnole. Alors oui, évidemment, l'année dernière, l'Espagne a remporté la Ligue des Nations, mais là, on parle d'un quart de finale d'Euro et grand respect pour la Ligue des Nations, mais ça reste la Ligue des Nations. Et moi, je pense que demain soir, en cas de qualification contre l'Allemagne, ça va être l'occasion d'avoir un acte fondateur pour cette nouvelle génération espagnole. Si tu veux, j'ai un parallèle. J'ai le parallèle de l'Euro 2008, où tu avais justement cette nouvelle génération qui avait battu l'Italie au tir au but et ça avait lancé la série de triplés avec justement l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Bon, bien évidemment, je demande pas un triplé à Lamine Yamal, à Pedri, à Nico Williams. Et par contre, je leur demande d'avoir cet acte fondateur qui leur permettra d'être vu comme un vainqueur potentiel. Parce que pour moi, c'est une chose qui est très importante. Oui, l'Espagne, en 2021, ils ont fait demi-finale. Mais à côté de ça, ils avaient eu un tableau plutôt flatteur avec la Croatie et la Suisse. Là, l'idée de battre l'Allemagne, organisatrice de la compétition, autre favorite, ça dirait beaucoup de choses dans la perspective d'une potentielle demi-finale, soit face à l'Allemagne, soit face à l'équipe de France, soit face au Portugal. Et surtout, dans la perspective du Mondial 2026, moi, pour moi, l'Espagne serait l'une des top 3 favorites au titre mondial. Voilà pourquoi je pense que gagner ce match contre l'Allemagne, ça enverra un message, parce que ce serait la première victoire éliminatoire d'envergure depuis la finale de l'Euro 2012 face à l'Italie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Et surtout, ça permettrait à cette nouvelle génération de se dire que sur un match au sommet, parce que la Géorgie, ça reste la Géorgie, sur un match au sommet, tu seras en capacité de répondre présent dans un premier temps et de gagner un match qui fera date dans leur jeune carrière.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, ça remettrait en cause tout ce que tu dis, tout ce que t'attends de cette équipe d'Espagne?
Pour moi, ça remettrait pas en cause, mais moi, je pense que le football de sélection n'attend pas, parce que le football de sélection vit d'opportunités. Et là, l'Espagne a une grande opportunité, parce que là, on est sur un Euro qu'on a présenté comme homogène. Et là, l'Espagne, avec 4 victoires en 4 matchs, a l'opportunité de faire quelque chose de très grand. Voilà pourquoi je pense que cette nouvelle génération peut marquer les esprits et ça commence dès vendredi.
À ce point-là,
moi, je rejoins Alton. La seule limite, c'est que c'est une finale avant l'heure en fait, mais ça reste un quart de finale et que si tu passes demain contre l'Allemagne, mais que tu prends un mur en demi-finale contre le Portugal ou le
ou la France,
oui, ou c'est la possible France. Les deux. Ça peut être. J'espère que ce sera l'équipe de France, mais ça peut être aussi le Portugal.
Non, quand tu parles de mur,
malheureusement. Malheureusement, on retiendra quoi? On se dira oui, ils ont battu. On se dira que l'Espagne aura été demi-finaliste comme elle a pu l'être en 2021. Quand tu sors avant, quand tu vas au bout, on se souvient pas du parcours. Mais quand tu sors en demi-finale, finalement, on va te dire bah oui, ok, c'est pas t'as battu l'Allemagne qui elle aussi est une équipe en reconstruction, qui elle aussi n'a pas atteint de. C'est son premier quart de finale l'Allemagne depuis l'Euro 2016, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même aussi une équipe en reconstruction. Le choc s'annonce. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Je suis très très excité, très hypé par cette rencontre. Je pense que parmi les quatre quarts de finale, c'est de loin
Si je peux me permettre, ouais, c'est égalité.
C'est celui que je pense tout le monde a envie de regarder parce que c'est deux équipes joueuses, parce que t'as des joueurs exceptionnels des deux côtés que tout le monde a envie de voir. Moussiala, Wirtz, on espère, il a pas joué le huitième. On espère qu'il sera titulaire demain face à l'autre côté. Moi, les deux joueurs qui m'ont le plus réjoui, Lamine Yamal et Nico Williams, surtout depuis le début de l'Euro. Ça va être une affiche exceptionnelle, mais encore une fois, tu gagnes demain, tu perds en demi. Qu'est-ce qu'on dit?
Tu sais que Jimmy, je t'attendais justement.
On répète dans l'après, mais là, il va repartir sur son effort.
Parce que j'ai un autre exemple.
J'ai un César à côté, mais.
Non, parce que justement, on a un exemple très récent avec l'équipe de France, c'est-à-dire qu'en 2016, ils battent l'Allemagne, ça les a pas empêchés de perdre en finale. Mais pour moi, et d'ailleurs, Guy Stéphane l'a dit à l'occasion de la conférence de presse hier, ça avait préparé 2018. Moi, je pense qu'une victoire d'envergure sur un tournoi international, c'est très important pour une génération.
Surtout que l'Espagne n'a jamais gagné contre le pays hôte.
Exactement. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que battre l'Allemagne, même si ça te garantit pas d'aller au bout le 14 juillet prochain, ce sera un référentiel très important pour cette nouvelle génération. Manière de dire que, les gars, on est capable de nouveau de remporter ce type de victoire.
T'as raison sur la génération Elton. Évidemment, il y a des marqueurs importants. Néanmoins, je pense que, malgré tout, l'Espagne, c'est toujours une sélection crédible sur les dernières années. Évidemment, on peut me récolter.
Et tu sais qu'ils ont gagné leur premier match éliminatoire en 90 minutes pour la première fois depuis 2012.
On peut me rétorquer évidemment ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde, en effet. Mais je te parle en référentiel jeu. C'est une équipe, pour le coup, on sait reconnaître l'Espagne. Si tu mettais des maillots neutres, on saurait reconnaître l'Espagne. Et je trouve qu'en plus, là, elle a rajouté des ailiers percutants, ce qu'elle n'avait pas sur les dernières saisons. Donc la transformation, elle est validée pour moi. Évidemment qu'elle doit être aussi validée par un... Parce qu'en fait, demain, ça peut être considéré comme un exploit. Tu sors le pays hôte avec une nouvelle génération, on peut rentrer dans un truc assez dingue. Mais je pense pas que la victoire serait... Elle peut être un tournant, mais je veux dire, pour moi, dans mon esprit, ça ne valide pas forcément la mort ou la vie de cette génération.
Ouais, parce que justement, Sofiane, on parle de deux choses différentes. Parce que toi, tu me parles de jeu. Moi, je te parle de compétitivité. Parce que, en gros, il faut que l'Espagne, pour moi, arrête de développer ce qui est pour moi un espèce de complexe d'infériorité, notamment sur ce rapport compétitif. À savoir que on a le jeu, mais à côté de ça, on finit toujours perdant. Enfin, on finit toujours perdant sur les dernières années.
Depuis 2000.
J'ai quand même rappelé qu'ils avaient gagné la Ligue des Nations, mais par contre, sur les grandes compétitions.
Les derniers euros, ils vont aussi.
Ils font demi-finale, ils doivent aller en finale.
Non, mais je vais te donner un exemple, justement, contre l'Italie. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est que l'Espagne est au-dessus de l'Italie.
Mais évidemment,
ça, ils n'empêchent pas de perdre au tir au but.
Mais ça arrive, c'est le lot
mais
de
juste sur la notion d'exploit demain, pour avoir discuté avec Polo hier, en Allemagne, tout le monde considère l'Espagne comme favorite. Hein.
C'est-à-dire que même ici, quelque part.
Oui, moi, je trouve qu'on a vu, etc. Il ne faut pas oublier que c'est une Allemagne en reconstruction, que récemment, alors c'était certes la Ligue des Nations, il y a eu un 6-0 qui a beaucoup marqué, Polo me le disait, les Allemands, un 6-0 pour l'Espagne en 2020. Voilà. Ne pas oublier que l'équipe d'Allemagne aussi elle est jeune et qu'elle a pas beaucoup de références en compétition. C'est presque un miroir. C'est une symétrie.
Ouais. Je pense que d'un côté l'Allemagne a plus à perdre que l'Espagne demain. Et je le pense.
Après, tu vois,
je suis d'accord avec toi, mais c'est une équipe aussi qui a tout à prouver.
Tu parlais de 2008. Attention à ce que ce soit pas plutôt 2006 pour l'Espagne, parce qu'avec en plus Rossello qui veut envoyer Kroos à la retraite. Ouais, vous avez vu passer la décla. Même si d'ailleurs ce soir en conf, ça a un peu déminé évidemment. On a du respect pour eux et eux pour nous. Voilà ce qu'a dit Luis de la Fuente. J'ai pas écouté ni suivi les déclarations qui en ont fait polémique. On a un peu.
Typiquement, juste pour faire un comparatif. Imaginons ils sortent demain. Tu fais le comparatif avec la dernière compétition où ils sortent contre le Maroc, ok ?
Il y aura une progression, évidemment.
Est-ce que tu penses vraiment que tu n'as pas progressé ? Moi, je pense que tu as progressé malgré tout, parce que tu as rajouté des variables différentes dans ton jeu.
Tu seras même, pour moi, redevenu une équipe de tournoi. Mais là, on parle d'autre chose.
Tu l'as toujours été, Elton, vraiment, sur les dernières années.
Moi, j'insiste sur les dernières années.
On a un référentiel équipe de France avec 3 finales en 4 compétitions. On est des malades mentaux. Mais la vérité, c'est que cette équipe, elle est crédible. Même si je te rejoins.
Elle est crédible jusqu'à quel stade ? C'est ce qui m'intéresse.
Elton, tu fais demi sur le dernier euro.
On l'a encore évoqué, le parcours du dernier euro, c'est un parcours qui est quand même très difficile pour l'Espagne. Tu t'en sors
parce que c'était une équipe du monde 2022, c'est pas bon, 2018.
C'est ça.
La question quand même, c'est que moi j'ai un énorme doute sur la charnière centrale de manière générale, et je sais pas si demain, quoi qu'il arrive, ça validera cette charnière s'il passe. Donc on verra.
C'est un test de grandeur nature.
La vraie question, c'est Wanker qui la pose dans le chat. Sofiane, est-ce que Yamal et Williams sont ballon d'orisable?
C'est pour ça que j'ai ri.
On verra. S'il passe demain, ça peut être un premier pas. Le match sera à 18h hein, demain et à vivre là aussi sur écran géant sur Rennes si vous voulez venir passer ce moment avec nous. Dans un instant, on referme la page euro et on s'intéresse à l'Olympique de Marseille avec l'avis de Sofiane justement concernant Aubameyang dans cette journée qui a vu certains Marseillais reprendre le chemin de l'entraînement du centre Robert-Louis Dreyfus. Il est 21h31, c'est Génération After avec Sofiane Elton Mokolo et Jimmy Brown. On se retrouve dans un instant.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
On passe la soirée ensemble sur RMC à la radio, sur YouTube, en direct vidéo, la chaîne de l'After. Merci d'être là. Merci pour toute cette bienveillance, tous ces messages. Ça fait plaisir. Merci. Je vois Philippe Callan. Ça fait plaisir. Sofiane Zouaoui là. Elton Mokolo, Jimmy Brown à suivre sur RMC. Le quiz 21h45 by Jérôme Thomas. Mais d'abord, la Ligue 1 et déjà la reprise pour l'OM. Quelques joueurs avaient rendez-vous aujourd'hui à la commanderie pour passer des tests médicaux notamment. Il y avait Harit, Rongier, Verretou. Quelques internationaux sont attendus demain. Le premier entraînement collectif est prévu lundi avec De Zerbi. Et pendant ce temps, ça bosse toujours autant sur les transferts. Koné et Brassier ont signé. Youssef Attal est tout proche de l'OM. Il est libre depuis son départ de Turquie. Les discussions ont bien avancé. Et ce soir, la vie tranchée de Sofiane concerne l'OM et son attaquant.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable, entre guillemets ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
Je déteste ça. Je déteste. Génial.
Attends, attends, mais à quel moment tu étais parti dans cet envolée?
C'est ma première émission.
Ah ouais. Mais on est quand même d'accord qu'il a été coupé et il est mort sur recollé.
Non, non.
Pas du tout.
Non, ça
j'ai bugué,
Ah, c'est incroyable.
On m'a dit d'être impactant, j'ai été impactant.
On a retenu un mot.
Aubameyang, Sofiane.
Ouais, c'est un débat très intéressant parce que ça me renvoie un petit peu à, désolé de faire le lien, mais ça me rappelle le débat avec Lacazette il y a quelques semaines à Lyon. Est-ce qu'il faut conserver absolument Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l'OM? Et je pense, moi, qu'il ne faut pas le retenir. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut le pousser vers la sortie, mais j'irai, allez, on va rester sur ne doit pas le retenir. L'OM, bon, ils ont entamé leur évolution d'effectifs. On a vu, il y a des départs, il va y avoir des arrivées du côté de l'OM. Et pour Aubameyang, même si les contextes ne sont pas identiques par rapport à Lacazette, encore une fois, je pense que je resterai sur la même idée aussi, pour plusieurs raisons. T'as la situation contractuelle du joueur. C'est un joueur qui a 35 ans, qui a encore 2 ans de contrat. Et si tu veux le vendre, c'est le moment, parce que l'année prochaine, tu seras probablement dans une situation où il voudra attendre la fin de son contrat, et potentiellement à 36 ans, il sera un peu moins performant que cette saison, où il est quand même sur 17 buts en Ligue 1 notamment. Donc c'était une très bonne saison de sa part. Il y a la situation contractuelle aussi. Je sais que de côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas trop de soucis au niveau d'Oseille pour combler les trous si besoin en fin de saison avec Macourt, et ça c'est une grande chance pour eux. Mais on parle d'un joueur qui émarge à 750K par mois. Dans une saison sans Coupe d'Europe, je pense que tu as besoin de ramener de la rationalité économique dans cet effectif. Et après, j'irai sur la variable collective aussi avec De Zerbi. L'approche du coach, on en parlait hier d'ailleurs avec Johan, notamment Crochet qui en parlait, c'est une approche sans concession d'un point de vue tactique sur les entraînements ou sur les matchs. Donc ça demande énormément d'efforts. Est-ce que Aubameyang qui en fait, bien évidemment il en fait, il en a fait cette saison, mais est-ce qu'il est capable de le faire sur toute une saison, même dans un calendrier allégé? Je me pose sincèrement la question. Il y a aussi la logique de De Zerbi sur le terrain. De Zerbi, c'est pas un homme d'homme providentiel. C'est pas un coach d'homme providentiel. Cette saison, Aubameyang, il a été à Marseille. 17 buts en Ligue 1. Le deuxième, je crois, en Ligue 1, il a 3 buts. Bref, il y a un décalage énorme entre le premier et le deuxième.
Pareil en Ligue Europa, d'ailleurs.
Exactement. Si tu regardes du côté de Sassuolo ou du côté de Brighton, tu vois qu'il y a le but, comme dirait mon ami Elton, il est démocratisé. Ça vient un petit peu de partout. Sur le projet de Zerbi aussi, tactiquement, c'est un coach qui valorise énormément plutôt les ailiers. Boga, Berardi à Sassuolo, Mitoma du côté de Brighton, notamment Wadingra. Donc pour permettre ce danger un petit peu de partout, t'as besoin, à mon avis, si possible, s'il y a une offre, de le sortir pour rééquilibrer économiquement ton effectif, notamment devant, et apporter un petit peu plus de qualité de tous les côtés. Donc, au regard de toutes ces considérations, et même avec l'immense respect que j'ai de Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que l'OM ne doit pas le retenir. Et si je poussais un petit peu plus mon avis, je dirais qu'il doit
le vendre.
Bah oui. Le vendre.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça le réserve, c'est qu'on a connu Sofiane plus tranché. Dans l'absolu, aucun joueur qui veut partir. Tu
parles d'un
joueur qui veut partir.
On dirait pas fait sur Griezmann.
C'est vrai,
il a fait une saison extraordinaire.
Mais il y en a qui te disent t'as un malade mental, il a mis 30 buts.
Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien au joueur que c'est, à la saison exceptionnelle qu'il a
faite. T'as fait manque de respect de dire dégage, tu vois. C'est aussi ce côté.
Non, mais dégage. Toi, tu mets toujours.
Mais s'il a une offre qui va lui le satisfaire financièrement parce qu'il va pouvoir signer un dernier contrat lucratif en Arabie Saoudite, l'OM va pouvoir tirer une indemnité de transfert et s'y retrouver. On est d'accord qu'on part sur un nouveau projet. Moi, je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais par rapport à De Zerbi. Je suis pas certain que ce soit ultra compatible, même s'il s'adaptera toujours, oui, parce que c'est un très grand joueur. Aubameyang, il y a pas de sujet là-dessus. Mais on sent bien que c'est une nouvelle histoire et il y a vu en plus. Les noms qui circulent, il y en a tous les jours de pistes offensives à Marseille. On sent qu'ils ont envie de renouveler considérablement l'effectif.
Ouais, et puis au pire, t'as Montbagna.
Ouais, je sais pas moi si je miserais sur Moumbagna pour remplacer Aubameyang, mais on voit bien qu'on part sur une nouvelle histoire et auquel cas on pourra dire oui, mais moi je rejoins Sofiane. Merci Aubameyang, mais
faut le régler très vite parce qu'il peut définir aussi la construction de ton effectif. Encore une fois, d'un point de vue économique et organisation de ton attaque. Si t'as Aubameyang, tu peux pas le sortir parce qu'il te prend une charge salariale en plus très importante. Est-ce que tu peux mettre autant sur tes ailiers? Tu vois, c'est aussi la gestion de ton effectif dans une saison où je le répétais lors d'un dernier after. Pour moi, c'est la pire saison pour changer de projet sportif, mais l'OM est obligé, malheureusement. Mais là, ça va être difficile. Il y a l'euro qui te mange des pistes éventuellement ou qui survend des pistes. T'as les droits TV, évidemment, même si encore une fois, l'OM est un des clubs qui s'en sortira le mieux. Mais voilà, malgré tout, je pense qu'Aubameyang, ça doit être géré assez vite et plutôt vers un départ dans mon esprit.
Bah, c'est pour ça que pour moi, ça pose question, notamment sur, parce que vous avez évoqué la dimension financière et quid de la dimension footballistique, parce que on a évoqué un Olympique de Marseille qui avait une carence en termes de but, fait qui va l'incarner la saison prochaine. Pour moi, c'est une question qui est légitime, et quand on parle d'Aubameyang, on parle d'un capital but qui n'est pas à négliger. Donc moi je me dis, sur un marché très complexe, le marché du numéro 9, avec la situation de l'Olympique de Marseille, Jimmy vient de l'évoquer, on est en plein Euro, Copa América, Jeux Olympiques, donc c'est très difficile entre guillemets d'avancer sur les pistes. Moi je me dis, attention,
sécurité, faut qu'on aille... Ils t'ont amené où
les 17 buts de Aubameyang en Ligue 1?
Attention.
Avec tout le respect, parce que c'est pas le problème, c'est pour Aubameyang.
Non, le problème c'est pour Aubameyang. Non, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, notamment au regard de l'effectif marseillais, je n'ai pas de garantie pour que, comme tu l'as dit, le but soit démocratisé.
Ça, c'est sûr,
mais pour moi, un départ d'Aubameyang, tu plonges dans le vide. Et toi, tu as évoqué une situation de l'Olympique de Marseille qui, quand bien même, ils ont pris deux Zerbi, on reste sur une situation qui, à l'instant T, est instable. Et pour moi, Aubameyang, au même titre qu'Abalerdi, est un garant de, est une garantie de
Balerdi,
stabilité.
Oui, ça n'a rien à voir.
Il y a Walid qui est avec nous au 32-16 supporters.
Ouais, Walid, tu peux venir.
Marseillais. Non, mais physiquement, c'est pour le quiz, mais sinon, avant, c'est au téléphone. Salut Walid.
Salut Walid.
Bonsoir.
Salut Walid. Ça va, Walid?
Ça va, impeccable.
Bon, Aubameyang, tu le gardes ou tu préfères qu'il s'en aille?
Alors moi, honnêtement, Aubameyang, déjà l'année dernière, j'étais pas pour. Franchement, il est venu, il a fait ce qu'il a fait, il nous a apporté ses 17 buts en Ligue 1, plus je crois 13 buts en Europa League.
Ouais, c'est ça, il a pris 10 buts en Ligue 1.
Bien sûr.
Voilà.
Ses stats sont énormes.
Donc il a fait son année, là il commence à être vieux, je le vois. D'ailleurs, c'était une erreur de lui donner 3 ans de contrat. Moi, franchement, j'aimerais bien que l'OM aille chercher Mekoutadze. Je pense que c'est faisable.
Tu touches pas à ces lions.
Non,
c'est Monaco.
Il y avait Monaco aussi. Mais
non, je disais formé.
Il proposerait un beau contrat à Mekoutadze sur du long terme. Il est à 15 millions, je crois, sur en termes de montant de transfert.
À mon avis, c'est plus maintenant, Walid.
Ouais, peut-être.
C'est Serge Benhamou, il a augmenté les prix depuis.
Oui, mais on a donné
30
millions pour Vitinha qui ne sait pas cadrer un tir. Donc, on peut très bien mettre 20 millions sur Mekoutadze. On peut faire une plus-value sur Mekoutadze.
Mais si tu l'as pas, Walid, Mekoutadze, par exemple, est-ce que tu n'es quand même pas bien content de garder Aubameyang?
Ouais, franchement, s'il n'y a rien, oui. Je vais le garder une année supplémentaire, mais je ne sais pas où on va. De toute façon, on a des dirigeants, franchement, je ne comprends pas des fois les choix qu'ils font, je ne comprends pas du tout.
En fait, t'es content d'arriver de Desherby quand même, Walid?
Oui, ça va, on verra. Après,
pour moi, on gère pas un club avec seulement l'émotion. C'est-à-dire que, évidemment, que la saison d'Aubameyang est exceptionnelle. Mais ça, c'est facile de faire ce constat. Il suffit de regarder les matchs et de lire les stats. Après, le plus dur dans un club, c'est d'anticiper. Est-ce que tu penses que t'es dans une meilleure situation en attendant un an? Avec de l'incertitude sur la forme physique d'Aubameyang, avec un an l'année prochaine, est-ce qu'il sera toujours convoité, le salaire aussi qui sera chargé pendant un an, est-ce que cette certitude-là, tu la préfères, ou est-ce que tu préfères aujourd'hui prendre les devants et anticiper tout simplement? Donc c'est ça la question. Moi, c'est pas un manque de respect sur Aubameyang ou remettre en cause sa saison, mais c'est redéfinir la gestion sportive de cette équipe en cours, avec notamment la gestion devant des attaquants qui a été catastrophique globalement, parce que les ailiers ont été catastrophiques.
Et toutes les Info Mercato à retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Walid, à bientôt sur RMC.
Salut Walid.
Merci à vous.
Ciao. Salut Walid. Bye bye. 21h43, Walid Acherchour arrive à 22h accompagné de Kevin Diaz et Nico Villas pour l'after. Mais d'ici là, c'est le quiz de l'after by Jérôme
Walid
Thomas.
Même pour le quiz, non?
Je réfléchis, je donne ma réponse dans un instant. C'est Génération After avec Jimmy Brown, Sofiane Zouaoui et Elton Mokolo. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC une fois de plus, Génération After, avec Jimmy Brown, Sofiane Zouaoui, Elton Mokolo. L'After arrive dans un quart d'heure. Nico Villas, Walid Acherchour et Kevin Diaz. Mais d'abord, place au quiz. Tiens, juste avant le quiz, un petit point foot sur notre équipe de France Olympique qui débute sa prépa pour les JO à Bayonne face au Paraguay. Paul Lafitte.
Oui, Thibaut, difficile pour l'équipe de Thierry Henry qui est menée, on l'appelle, 1-0. Un but rapidement marqué par Juan Salcedo dès la troisième sur une perte de balle de Luc Eba. Mais c'est vrai que les Bleus ont eu une belle occasion. Finalement, Matsima a trouvé quasiment les filets, mais le ballon a vraiment flirté avec les montants du gardien paraguayen. Et depuis, les Bleus qui incident dans la surface de réparation, mais pas mal de maladresse dans la finition. Donc ce score de 1-0, un petit quart d'heure encore à jouer avant la fin de cette première mi-temps.
Merci beaucoup Paul, à tout à l'heure, 21h47, place au quiz.
RMC, le quiz de l'after.
Salut Jérôme Thomas.
Salut Thibaut.
Ça va ?
Ça va, très bien, je te remercie.
Prêt pour ton quiz ?
Ouais. Il est prêt.
Yannick et Mickaël sont avec nous et vont participer à ce quiz. Salut les gars.
Bonsoir les amis.
Hola viva.
Qui c'est qui vient de faire ce hola viva ?
Ouais, c'est Yannick, parce que France-Portugal, Yannick Villas qui doit écouter avant.
Ça tombe bien, c'est le thème du quiz. France-Portugal.
Et il y a Walid Acherchour qui nous a rejoint. Salut Walid.
Salut les gars.
Alors il y aura une
Walid,
équipe.
Je te kiffe Walid.
Merci, c'est gentil.
C'est qui ça encore ?
Salut Walid, moi je te kiffe.
Yannick, toujours.
Yannick,
on se kiffe tous.
Non, pas tous. Il y aura une équipe Jimmy Brown, Sofiane, contre une équipe Walid Elton.
Allez.
Yannick.
Bien, Walid.
Yannick, est-ce que tu préfères les zèbres ou les saumons ?
Vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, je vais prendre Walid.
Ouais. Non. Elle est belle, cette phrase.
Vous préférez les zèbres ou les saumons?
Il est
chaud sur moi.
Je sais pas si. Ah oui, ok. Tu sais, j'ai compris, parce que Walid qui mange que du saumon, c'est ça, Yannick?
Okay, il y avait une ref. Merci Yannick, t'es un
Alors Yannick, t'es avec Walid et Elton.
Allez, cool.
Et Mickaël, tu es avec Sofiane.
Allez, Yannick.
Et Jimmy.
On va les défoncer.
Ça marche.
C'est parti, première question.
Le premier coup, le premier jingle. D'ailleurs, il y en aura qu'un. C'est parti. Le quiz des intelligents.
Un minimum de jugeote, ça s'achetait au supermarché, une intelligence, je pense que tout le monde en achèterait une.
On y va uniquement des questions sur France-Portugal demain, évidemment, donc thème unique, quiz France-Portugal, beaucoup de questions. Allez, sur le top. Portugal, on y va. Première question de rapidité, tout le monde joue, 211 sélections pour Cristiano Ronaldo, comme vous le savez. Qui est le deuxième Portugal plus capé ?
Pepe.
Non.
Eusebio.
Non.
Figo.
Non.
Ricardo.
Non.
Nico.
Il a arrêté il n'y a pas longtemps.
Moutinho. Ah là là.
Bravo.
Un point énorme pour l'équipe d'Elton, Walid et Yannick.
Il n'en voit plus.
Question de rapidité toujours. En 2019, on croyait l'avoir retrouvé, mais non. Comment s'appelait l'homme qui avait été confondu avec Dupont de Ligonnès ?
Ah, Olivier Ménard.
Non.
Joao. Bonne réponse.
C'est des fous, comment vous rappelez du nom de ce gars ?
C'est l'événement du 21e siècle. Réveille-toi.
On est d'accord, exactement. Rapidité. Trouvez-moi ce milieu de terrain portugais, très facile. Dans les années 90-2000, il n'avait pas un masque pour protéger son nez, il avait un écarteur de narine.
Jorge Costa.
Non.
Non.
Milieu de terrain. Pardon ?
Dimas.
Petit ?
Non.
Costinha.
Il a joué au PSG.
Sapinto.
Non. Ah, c'est pas loin de Sapinto.
Joao Pinto.
Il a fait la passe décisive.
Fort. 2-1.
Elle est pour toi, Nico.
Pour l'équipe.
Ah, j'ai fait.
Jimmy, Sofiane et Mickaël.
Bravo, Jimmy.
On continue. C'est toujours une question de rapidité avec tout le monde qui peut répondre. Lors de la finale de l'Euro 2016 remportée par le Portugal face à la France, qui portait le numéro 10 portugais ?
Joao Mario.
Elle est là, t'as plus.
Joao, c'est vrai que je sais pas si on dit
Joao. On enlève le point.
On enlève le point.
Tu dois faire un virage avec le nom.
Joao. Attention, question. Donc, sans les auditeurs. Trop facile, sinon.
Ok, Yannick et Mickaël, à tout de suite.
Chacun votre tour. Les deux équipes, vous pouvez vous concerter, vous avez quelques secondes. Vous devez me donner un joueur ayant inscrit au moins 20 buts avec le Portugal.
Ok.
Concertez-vous.
Juste, petit indice, Walid. Il y en a 12 au total. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 12.
Une feuille inscrite. Non, on le fait comme ça. On le fait comme ça. Ronaldo chez nous.
Ronaldo, c'est bon.
Cristiano Ronaldo.
130 buts. Pauleta, c'est bon. Vous m'avez cité les deux premiers. Pauleta, 47.
Je vais te dire quoi ? Je vais te dire Nani.
Nani, c'est bon.
C'est quoi le cut? C'est 20 buts, le cut.
Le cut, c'est 20.
C'est 20.
Ouais, c'est 20.
Nuno Gomes.
Il rentre pas. Je suis sûr qu'il rentre pas.
Nuno Gomes, il rentre. Au moins 30.
Évidemment qu'il rentre.
29. Il rentre.
Nuno Gomes.
29.
C'est Nuno Gomes, par contre.
C'est Nuno, ouais.
Postilla chez nous, Postilla.
Elder Postilla.
Ça rentre pas.
C'est bon. Ça rentre largement.
Bah, 27. Bah oui.
Eusebio, il a bien mis 20 buts avec le Portugal, ouais. Eusebio.
Ah ouais. Eusebio, c'est excellent.
Eusebio.
Excellent. Figo, troisième.
Luis Figo.
Quatrième, Luis Figo.
Bien, rien.
32 buts. Attention, vous précipitez pas parce qu'il en reste pas beaucoup. Il en reste... 1, 2, 3. Il en reste 4.
Allez, c'est Jimmy et Sofiane.
Il en met, il fait une longue carrière.
Allez-y.
Rui Costa.
C'est bon.
Oui.
Almeida, c'est pas bon.
Non.
Aïe. Donc Almeida, c'est pas bon.
Almeida, c'est pas bon.
Donc on gagne.
Qui a commencé?
C'est nous.
Vous avez commencé.
Pour valider, il faut courir.
João Pinto.
Pas bon.
C'est bon.
Allez, c'est 22.
Et ça fait 3-2 dans ce quiz de l'after pour l'équipe. Jimmy, Sofiane, Mickaël. 3-2 pour l'équipe Jimmy, Sofiane, Mickaël.
C'était la folie, ça vaut qu'un point.
Ça vaut un point.
Ça vaut un point et tu la fermes.
Et les auditeurs, vous êtes de retour, les gars, le 32-16.
Guy Joao, ça vaut pareil que ça.
Ouais, Guy Joao, ça vaut pareil que Rugrand.
Vous avez oublié l'aigle des Açores quand même.
Non, il a dit. 46 buts, il a dit.
Micro-sieste, apparemment, Yannick.
Non, gorge.
On repart sur une question de rapidité. Quel est le nom de famille le plus commun au Portugal?
Costa.
Non.
Almeida.
Sanchez.
Il y en a un parmi les titulaires du Portugal.
Gomes.
Non.
Fernandez,
Costa,
non, Silva,
Yannick.
Qui a dit
Yannick. Tu l'en mets dedans, Yannick. Ça part de là, Yannick.
Trois partout.
Duel Walid, ouais. Jimmy.
Allez.
Quel joueur espagnol de Gérone aurait presque pu jouer pour le Portugal?
Porto.
Oh, bravo. 4-3.
Très belle réactivité. Non complet. Cristian Portugues Manzanera.
Jimmy, t'as été énorme.
Duel Elton Sofiane. Quel joueur de Newcastle porte le nom d'une ville portugaise? C'est un international brésilien.
Guimarães.
Et ça fait 4 partout entre les deux équipes.
Il est beau, ce
quiz.
Il est beau.
Très, très beau quiz.
Duel Yannick Mickaël.
Allez, Mickaël, c'est maintenant, Yannick. Allez,
faut aller chercher ce Bombers, Mickaël.
Écoutez, les gars, lors de la finale de l'Euro 2016, France-Portugal, Coman et Martial sont entrés en cours de jeu. Qui était le troisième côté bleu?
C'est facile.
C'est Gignac. C'est bon.
C'est bon.
Yannick.
C'est moi. Yannick, c'est moi.
Le poteau,
c'est Yannick. Moi, je propose point annulé, parce que je crois qu'il y a une simultanée.
Ah, moi, j'ai dit simultanée,
Il y a une simultanée.
Non, il y en a un qui l'a dit avant, mais le problème, c'est que j'ai pas le truc là. Ouais. Point en suspens.
Hein? Attends, c'est roulé,
On continue. Eder.
Je vais pas.
Tout le monde.
Alors attends, juste par contre, Yannick, Mickaël, si vous répondez, vous dites votre prénom avant, ok les gars?
Ok, ça marche.
Allez, vas-y.
Tout le monde joue. Eder fut le bourreau des Bleus en 2016. Après Lille, où va-t-il?
Locomotive Moscou.
Pardon.
C'est Locomotive Moscou.
Le point pour Jimmy.
Question de rapidité, tout le monde joue. Il porte le nom d'une ville portugaise. Qui est cet ancien joueur du PSG et ancien entraîneur de l'OM?
Braga, appelle Braga.
Ce qu'on leur fait,
ils sont morts.
Les questions intelligentes, c'est Elton à chaque fois. Duel Elton Jimmy. Je veux le premier qui arrive à me dire bonjour en portugais.
Bonjour.
C'est simultané.
Elton juste devant.
Il démarre avant.
C'est horrible.
Moi j'aurais dit simultané, mais
duel Sofiane Walid. Je vous fais le parcours d'un joueur. Ouais, vous devez en club, vous devez donner le joueur. Quand Lorient Dortmund Bayern.
Guerrero.
C'est nous. Allez, enchaîne.
Ça fait 7-5. Il n'y a pas de simultané à chaque fois. Nous, c'est nous. On arrive tout le monde. À pleine barre. C'est pas bon, mais.
Tout le monde joue. Ouais. Question avantage Walid. Lors de France-Portugal, demi-finale de l'Euro 2000, qui porte le numéro 10
Zidane. Rui Costa.
Rui Costa.
Non.
Ah non.
Le 10 pour Zidane. Rui Costa, pardon.
C'est bon, Rui Costa. C'est Jimmy. 7-6. Un point d'avance pour l'équipe Walid.
Il faut tenir.
Lors de ce même match, France-Portugal, demi de l'Euro 2000.
Abel Xavier.
Qui porte le 4
Abel Xavier.
Ouais, mais non, parce que tu m'as donné la réponse avant la question.
Mais non, qui porte le Xavier? C'est quoi?
Non, il a trouvé. Allez, enchaîne,
une autre question.
Tu rentres pas dans la boulangerie si ça fait ce qu'on fait. Désolé.
Qu'est-ce qu'on fait? Thibaut, c'est toi qui
t'as. Non, mais c'était la réponse à ta question.
Ah, bah oui, merci.
Bientôt Walid va répondre à la question avant qu'elle soit posée.
Ouais, c'est
absolument ce qu'il y a.
8-6 pour l'équipe.
Question de rapidité. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite. Et qui est le meilleur? Quel est le français meilleur buteur actuellement en Arabie Saoudite?
Moussa Dembélé. Merci, merci.
9-6, c'est fini.
Là, il n'y a plus de simultané.
Il y a 9-6.
C'est fini.
C'est allez, fini. Bravo. Victoire de Walid Elton. Et c'est Yannick qui remporte le bon beurre. C'est shot.
Bravo, les gars.
Merci, Yannick.
Félicitations, Yannick. Attention.
Gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Le bon beurre pour Yannick et Mickaël, tu repars quand même avec une casquette Shot et le scratch after foot qui va avec. Merci Jérôme pour le quiz, merci Elton, merci Jimmy, merci Sofiane, ciao les gars, bonne soirée, merci à vous d'avoir été là dans un instant. Walid Acherchour reste, Nico Villas, Kevin Diaz, ce sera en simultané à la radio sur RMC et sur YouTube, bien sûr. À tout de suite sur RMC.